La musique est de retour.
Salut à tous et salut à toutes.
Oh.
Bienvenue à ce Musicorama assez génial.
Close up, take snap, hold up, take snap.
Oh, ok, vous ne faites pas d'erreur. Vous êtes bien connecté sur la radio sans concession.
Now in darkness, world stops turning. Ashes where the body's burning.
L'attitude actuelle commence à me polluer ferme. Ce qui n'était que provisoire s'est installé à long terme.
Radio provisoire.
Hello. Turn on the radio.
I'm talking to you. I'm talking to you.
You're being grotesque.
It's pretty late.
Why don't you switch on the radio?
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur PFM 99.9. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes pile poil dans Décibel. Voilà, Décibel un petit peu spécial ce soir puisqu'on accueille dans les studios Michel Simoneau, homme de théâtre, écrivain, metteur en scène. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis on reçoit également Pierre Longnes, enseignant en art du spectacle à l'université d'Artois et qui a participé à une création artistique. On va en parler juste après.
Bonsoir.
On va parler d'un spectacle et d'une pièce qui aura lieu demain à 19h30 à la ruche de l'université d'Artois. Ça s'appelle Delta Charlie Delta. Mais avant ça, le single du jour que je vais vous proposer. Alors, il s'agit évidemment d'une avant-première puisque c'est un tout nouveau single qui vient de paraître. C'est celui de Lana Del Rey qui prépare son 6e album qui sortira le 29 mars prochain. Le titre qu'on va écouter s'appelle « Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it ». C'est un hommage à Sylvia Plath, fameuse écrivaine, poétesse torturée de son temps. Donc on écoute ça tout de suite. Vous allez voir, c'est une ambiance assez particulière. Piano, voix, c'est un hommage tout simplement. Voilà.
I was reading some errands and I got to thinking that I thought maybe I'd get less stressed if I was tested less like all of these debutantes. Smiling for miles in pink dresses and high heels and white yachts. But I'm not, baby, I'm not. No, I'm not. That I'm not. I've been tearing around in my fucking account 24/7 Sylvia Plath, writing in blood on my walls, cause the ink in my pen don't work in my notepad. Don't ask if I'm happy, you know that I'm not, but at best I can say I'm not sad. Cause hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. I I had 15 year dances, church basement romances. Yeah, I've got spilling my guts with the Bowery bums is the only love I've ever known. Except for the stage, which I also call home when I'm not serving up God in a burnt coffee pot for the triad. Hello, it's the most famous woman you know on the iPad, calling from beyond the grave. I just wanna say hi, Dad. I've been tearing up town in my fucking white gown like a goddamn sociopath. Shaking my ass is the only thing that's got this black narcissist off my back. She couldn't care less, and I never cared more, so there's no more to say about that. Except hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Hope is a dangerous thing for a woman with my past. There's a new revolution, a loud evolution that I saw. Born of confusion and quiet collusion, of which mostly I've known. A modern day woman with a weak constitution, 'cause I've got monsters still under my bed that I could never fight off. A gatekeeper carelessly dropping the keys on my nights off. I've been tearing around in my fucking nightgown 24/7 Sylvia Plath. Writing in blood on your walls, 'cause the ink in my pen don't look good in my pad. They write that I'm happy, they know that I'm not, but at best you can see I'm not sad. But hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. But I have it, yeah, I have it, yeah.
Voilà, Lana Del Rey, donc, avec ce titre Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it. Autrement dit, l'espoir est une chose dangereuse pour une femme comme moi, mais je l'ai quand même. Hommage à Sylvia Plath. Donc, l'album sortira le 29 mars prochain et s'appelle Norman Fucking Rockwell. Un bon cru, je pense, encore pour Lana Del Rey. Comment vous avez apprécié ce titre avant de commencer?
C'est très, très
beau, je voyais très concentré.
Ah oui, très très beau.
Très, ouais. très
Alors beau. C'est très bizarre, Lana Del Rey qui est adulée par le public mais complètement rejetée par la presse spécialisée parce qu'elle est fille de producteur.
Bon, c'est incroyable.
Hein, c'est... Ouais. Mais on peut s'assurer que sa discographie...
C'est très pur, c'est ce qu'on vient d'entendre.
Exactement. Voilà. Donc à suivre le 29 mars prochain pour ce tout nouvel album qui sera dans la lignée, pour ceux qui connaissent, de l'un de ses albums référence, Ultra Violence, qui était sorti en, il y a quelques années déjà de ça. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec Michel Simoneau, je le rappelle, et puis Pierre Longnes, qui sont là pour parler du spectacle, si on peut appeler ça spectacle.
Oui, Oui.
Si, c'est un spectacle.
C'est un spectacle. Oui, Delta, Charlie, Delta. Pour résumer, on va faire court. En 2005, trois jeunes sont électrocutés dans un transformateur à Clichy-sous-Bois. Deux d'entre eux meurent, dont évidemment Ziad Bena et Bouna Traoré, et puis un survivant. Voilà, s'en suivent les émeutes qui ont suivi en 2005. Donc d'abord, on peut peut-être revenir sur cette genèse de cette pièce que vous avez écrite, Michel Simoneau.
Oui.
En 2005, vous avez vécu ça. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Comment tout a commencé en fait?
Enfin, je l'ai vécu au sens où, en 2005, j'étais artiste associé comme écrivain et metteur en scène dans un centre dramatique qui est à Saint-Denis, donc qui est une ville importante du 9-3, hein, de la Seine-Saint-Denis. Et là, j'avais à l'époque une commande du théâtre pour écrire sur la ville et j'avais invité trois autres auteurs. Et on avait commencé à écrire. Et a lieu à ce moment-là l'électrocution de Ziad et Bouna et celle aussi de Muhittin qui, lui, n'est pas mort. Et nous étions là. Et ça nous a amené à écrire à quatre un premier texte qui s'appelle « L'extraordinaire tranquillité des choses » qui fait référence au fait que tout ce qui s'est passé avec cette mort et les émeutes qui s'en sont suivies a créé une sorte de climat comme s'il ne s'était rien passé, ou l'extraordinaire tranquillité des choses. Et cette pièce qui a été créée, qui est un peu tournée. Mais moi, j'ai gardé personnellement cet événement, parce qu'il m'a marqué, la mort de Ziad et Bouna. Mais je ne savais pas à l'époque qu'il y avait un survivant. Mais ça m'est resté. C'est quelque chose vraiment qui c'est marquant. Enfin, puis les émeutes derrière. Voilà. Et puis, il m'a fallu 10 ans. De 2005 à 2015, quand il y a eu le troisième procès des policiers, parce qu'il y a eu des plaintes déposées pour non-assistance à personne en danger à l'égard des policiers, parce qu'ils les ont vus entrer dans le transformateur et n'ont pas donné l'alerte. Et donc, ce troisième procès en 2015, je l'ai suivi, et je pourrais dire comment, un peu particulièrement, et c'est de là qu'est partie l'écriture du texte.
Vous l'avez suivi intramuros ou de loin?
Alors, ce procès. Ça c'est capital pour moi, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, pour écrire sur quelque chose comme ça qui est réel, qui pour moi n'est pas un fait divers. Enfin, on pourrait dire que c'est pas un fait divers, c'est réel parce que c'est chargé d'histoire. Ça, d'abord, c'est chargé d'un événement politique de l'époque. Je voulais garder la distance avec cet événement. Pas tomber dans l'émotion, pas. Et donc, je ne voulais pas aller au procès lui-même. Donc, j'ai appris que des journalistes du monde entier étaient au procès à Rennes, au mois de mars 2015, et ils retranscrivaient par tweet, parce qu'on n'a pas le droit de transmettre en direct les procès, et ils transmettaient par tweet, les gars c'est les Nouvelles Obs, Libé, Figaro, tout le monde. Etc. Et moi, je me suis mis devant mon ordi et je faisais des captures d'écran pendant les 3 jours et demi qu'ont duré le procès. Et j'ai les captures d'écran de tous les tweets, de tous les. Et après, j'ai pu, à partir de là, reconstituer, en recroisant les choses, parce qu'il y avait des petites variantes, évidemment, dans les tweets, reconstituer sans avoir accès aux minutes du procès, parce que, à ma connaissance, on n'y a pas accès. Donc. Et c'est les tweets qui m'ont donné accès. Alors c'était drôle parce que c'est drôle. C'est curieux parce que j'avais des retransmissions écrites par bribes, par ces petites séquences de tweets, de ce qu'entendaient les journalistes dans la salle, qui eux-mêmes écoutaient dans la salle ce que disaient les parents. Pas évidemment Ziad et Bouna puisqu'ils sont morts, mais le survivant à qui on demandait de raconter, mais aussi les deux policiers qui étaient accusés, mais aussi on entendait les bandes d'enregistrement de la radio.
De la police?
Pas moi, je ne les entendais pas, mais de la police de l'époque. Donc il y avait comme ça une espèce de truc en abîme de 2005, 2015 et tout ça par des tweets. Ça m'a donné évidemment la distance, mais aussi la structure de l'histoire, du temps, quoi.
Du coup, une question qui me vient à l'esprit, est-ce que vous aviez déjà une idée d'une certaine mise en scène par rapport à ce que vous découvriez justement, mais que vous ne pouvez pas voir?
Mise en scène par rapport au théâtre?
Par rapport au tweet. Par rapport au tweet, est-ce que vous aviez déjà un moment où vous êtes projeté dans la salle du tribunal en disant ben je vois je
Non, pas du tout. Vraiment, je suis resté sur l'écriture. Moi, d'ailleurs, pour moi, j'ai un rapport au théâtre qui s'est affirmé depuis longtemps et qui maintenant est clair. C'est l'écriture pour moi qui est ce qu'on met en scène, c'est la langue et l'écriture. Et je me projette jamais sur une mise en scène, jamais sur l'espace. Voilà. Je laisse. Il y a une parole d'un metteur en scène qui est très connu, qui est mort, mais Antoine Vitesse, et qui a dit à une époque, pour moi, une phrase qui est restée très importante. Il y appelait ça un poète dramatique. Un auteur de théâtre, c'est quelqu'un qui écrit. Il n'a pas à se soucier de ce qui va se passer sur scène. C'est un défi qu'il lance au metteur en scène. C'est à lui de résoudre ce défi. Je partage la même chose. Bon, peut-être sans être moins radical, mais il y a quelque chose de ça.
Pierre Longnes, vous, en tant que dramaturge, votre regard justement sur cette création auquel vous avez participé?
Absolument. Alors, pour rebondir là tout de suite sur ce que vient de dire Michel, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit souvent de son écriture qu'il écrit pour la scène, pas forcément pour le théâtre, mais pour la scène. Ce qui veut dire que il a voilà, ces mots ont vocation à être incarnés, mais c'est vrai que c'est une vision ouverte, hein, non habitée par, je dirais, des stéréotypes préalables ou une certaine idée plutôt qu'une autre de ce qui doit se passer au théâtre, des histoires de personnages, de dialogues, enfin, etc. Bon. Mais c'est vraiment la poésie qui se projette dans l'espace sonore, dans l'espace visuel, enfin, etc. Alors dire ça, c'est déjà d'une certaine façon parler de la dramaturgie, non seulement du texte, mais aussi de la mise en scène qui s'en est suivie, quoi. Et donc c'est Justine Simoneau qui a mis en scène ce texte. Moi, je l'ai accompagné. Je suis à la fois effectivement collaborateur artistique et en même temps directeur de la compagnie du Samovar qui porte ce spectacle. Et il y a une très belle équipe aussi derrière, hein, 5 comédiens, une musicienne, un créateur lumière, voilà, une créatrice musicale. Bon, enfin, voilà, je ne sais pas si j'énumère leurs noms maintenant, mais en tout cas tout le monde est évidemment très important.
Hein,
Annabelle Play qui a créé la musique, qui est vraiment une très grande personne, si je puis dire, et une grande créatrice musicale et qui a une part très importante dans la création du spectacle. Et puis Jean-Gabriel Vallot à la création Lumière, et puis donc les comédiens que sont Clotilde Ramondou, qui joue un rôle très important dans tout le dispositif scénique, et puis les jeunes qui sont incarnés par Zachary Laurent et Alexandre Prince, et encore deux autres comédiens ou comédiennes que sont Xavier Kuenz et Catherine Salvini. Et je n'aurais pas tout à fait terminé cette liste si je ne mentionnais pas, d'une part, une personne qui nous a un peu accompagné sur les costumes, qui est Sandrine Rigieschi, et évidemment Jennifer Montesantos, qui nous accompagne à la régie et qui est également une aide très précieuse. Donc il y a vraiment une histoire d'équipe dans cette aventure et qui s'est tricotée avec le temps, peu à peu. Le livre est sorti en 2016 et on a tout de suite commencé à travailler sur des lectures. Il y a eu un long moment d'apprivoisement, de gestation, qui a duré plus d'une année et qui a été l'occasion aussi petit à petit de constituer l'équipe, qui ne s'est pas constituée du premier coup. Il y a eu des rencontres, au bout d'une année, les choses se sont tout de même mises en place. Et une deuxième phase de travail a commencé, qui a été plus véritablement au plateau. Mais en même temps, on pourrait parler de ce continuum, si je puis dire, entre le travail de la lecture et le travail du plateau, qui a été important, en fait. Il n'y a pas eu de rupture entre les deux.
Voilà. D'accord. Cette tragédie, parce qu'on peut appeler ça quand même une tragédie,
absolument.
Oui. Comment justement elle a été mise en scène? Qu'est-ce qui se passe sur scène? Est-ce que tout est raconté brut, pour donner peut-être l'eau à la bouche aux auditrices et auditeurs éventuellement?
Alors peut-être avant que Pierre tu puisses parler de ça, je veux dire quand même de quel est le matériau, c'est-à-dire il y a un texte et c'est quelque chose qui est mis en scène, quoi. Et ce quelque chose il n'est pas, je dis en tant qu'auteur, écrivain, c'est-à-dire que on écrit d'une certaine manière, on raconte une histoire, C'est une histoire qui est racontée, bien entendu, puisqu'elle a un événement, des dates, des heures. Ici passent des choses dramatiques, tragiques, la mort. Et puis, il y a un moment donné où tout ce qu'on peut raconter des faits, de la réalité, vérifié à la seconde ou millième de seconde près, se transforme dans une langue qui essaie de rendre compte de ce qu'on ne sait pas finalement, de ce que je ne sais pas, mais que j'avais envie de dire à la place de ces jeunes, par exemple, qui sont restés 40 minutes dans ce transformateur avant d'être électrocutés. Qu'est-ce qu'on peut imaginer que ces enfants, ces jeunes qui avaient 15 ans à l'époque, ont dit ? Et le survivant, qui lui, racontait, à qui on obligeait de raconter puisqu'il survit, mais on ne se souvient pas qu'il existe, et donc il reste celui qui porte la culpabilité et la vérité en même temps. Mmh. Et cette culpabilité qui le déborde.
Oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ce que disait Michel tout à l'heure, quand il disait « ce n'est pas un fait divers », c'est-à-dire que son théâtre n'est pas un théâtre de témoignage, ça n'est pas un théâtre de porte-parole de quoi que ce soit, même si évidemment il a travaillé, comme il le disait tout à l'heure, à partir des matériaux que sont les tweets des journalistes, des articles de journaux, etc. etc. Bon, il reste qu'il y a un très 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 puissant travail d'écriture, et on a prononcé il y a un instant le terme « tragédie », et ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'est pas la dimension ni sensationnelle, ni pathétique, ni etc., dimension dont se sont en réalité emparés les médias à l'époque, qui prévaut dans cette écriture-là. Au contraire, Michel prend le contre-pied total de cette démarche-là et approche l'événement avec une sorte de délicatesse dans la sensation et pas dans la sentimentalité, et en même temps parvient à déployer toute la dimension tragique de l'événement en le connectant à, je dirais, une espèce de souterrain mythique très, très, très puissant. Alors, c'est déjà parler de la mise en scène que de dire ce que je viens de dire, parce que l'espace est nu, il y a un chroniqueur qui restitue voilà, le chronos, le temps, enfin les événements, mais qui sont plus dans une logique de déroulement de sa pensée que dans une logique proprement chronologique, même si les minutes sont littéralement déroulées les unes après les autres. Hein, et ce chroniqueur est une sorte de chef d'orchestre d'un chœur qui n'est pas de 17 personnes, parce que si on regardait littéralement le nombre de figures qui sont mentionnées dans ce texte, on mettrait 17 comédiens au plateau, mais pas du tout, il y en a 5 plus une qui est la musicienne,
on en reparlera d'ailleurs
et
après.
Voilà, qui racontent tous en fait avec elle l'événement, c'est-à-dire qui sont dans cet espace vide et qui sont voilà, sur cette espèce d'échiquier en prenant des places tableau après tableau pour restituer ce théâtre de parole, quoi. Enfin,
oui, en fait j'ajouterais que le chroniqueur, c'est important, enfin, il est tenu par une femme, tenu par une femme, qui est en fait, qui a comme fonction, comme rôle, de faire venir les voix de ceux qui sont morts ou même de ceux qui sont vivants. Elle les fait venir sur scène, quoi. Elle les convoque, et ils viennent parler. De cette manière, ils viennent parler au public, ils viennent raconter au public. Voilà. C'est un peu ce que j'imaginais, pour répondre à votre question tout à l'heure du plateau. La seule chose que j'imaginais, c'est ça.
Et est-ce que cette chroniqueuse est sur le plateau ou en voix off ?
Oui, elle est sur le plateau. Oui,
d'accord.
Oui. C'est très important parce qu'elle est, voilà, entre le public et les comédiens. Tout est joué face. Il n'y a pas de quatrième mur. Il y a même des moments où la lumière de la salle est allumée. Enfin, voilà. On est dans une forme de théâtre récit et en même temps, on est sur le fil de rasoir entre l'incarnation et le récit. Il y a une chose que je voudrais ajouter, c'est que quand il était question du survivant tout à l'heure, le survivant est celui, ça c'est une chose qui est très très puissante chez Michel, est celui qui en est revenu, à qui on somme sans cesse de raconter et de dire, et qui est en réalité incapable de dire l'indicible, du coup il y a une espèce d'angle mort de cette affaire, qui est celui d'où part tout le théâtre, enfin, et c'est ce qui fait que ce théâtre ne montre pas ne reconstitue pas. De toute façon, on ne, non seulement on louperait la cible si on voulait s'imaginer pouvoir reconstituer, mais en plus, l'objet même du propos, c'est de parler de cet indicible. Alors, je ne veux pas parler là d'une dimension métaphysique, encore qu'on pourrait en parler, mais en même temps, voilà, quelle relation on entretient avec cet être qui est revenu du pays des morts, enfin.
Et là, je pense que justement, Justine Simoneau, dans sa mise en scène, en collaboration avec toi, elle a joué sur sa pulse entre quelque chose de profondément réel, immédiat, corporel, une présence physiquement corporelle des gens, même parfois violente, et quelque chose qui, en même temps, comme si c'était une évocation en même temps. Il y a une double idée. Je crois que ça donne la puissance à ce spectacle.
C'est très vrai ce que tu dis. C'est-à-dire que, par exemple, dans le travail sur le plateau, je pense qu'il y a une très grande sensibilité à l'espace dans la relation entre les comédiens sur le plateau. C'est-à-dire qu'ils sont à des places et il y a des mouvements de ces places et ces mouvements sont extrêmement écrits.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un genre d'intimité qui rassure aussi
Je sais
pas. Les comédiens et le public, il y a une bulle.
Alors ça, c'est une autre question, mais qui est une question importante. On n'est pas dans la création d'un espace de communion, pas du tout.
D'accord.
Pas du tout. Au contraire, la frontalité, là, elle est volontaire. Et la frontalité, c'est aussi la confrontation. Enfin, quand je parle de délicatesse des mouvements dans l'espace, ça n'est pas dans la rondeur. C'est au contraire dans la pureté des lignes, dans l'architecture, dans une pensée architecturale de la scène. Justine Simoneau est aussi quelqu'un qui est sensible à cette pensée architecturale de la scène. Bon, et d'ailleurs le travail avec l'éclairagiste a vraiment beaucoup est allé de très très loin dans cette réflexion là. Enfin,
et le fait qu'il n'y ait pas de quatrième mur, comme vous l'avez rappelé, est très important. Il y a vraiment un rapport et ça ne crée pas une intimité.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle le quatrième mur ?
Alors, c'est le mur, en fait, quand au théâtre, il y a trois murs qu'on voit. Oui. Normalement, on est censé, c'est comme si les comédiens jouaient derrière un quatrième mur. D'accord. Que le public verrait à travers.
Oui, dans les dramaturgies classiques, en tout cas réalistes du 18e, 19e siècle, on rêve que le spectateur regarde par le trou de la serrure une scène qui se passe en dehors de lui. Quoi. Bon, okay. On n'est pas du tout dans ces codes-là, effectivement.
D'accord. Au contraire.
Si je comprends bien, il n'y a pas de parti pris dans cette création. Il y a juste vous donner les clés au public. Il fait sa propre interprétation avec ses propres questions, ses propres sentiments.
Il n'y a pas de neutralité quand même. Je pense que, en tout cas, si je parle du texte, après la mise en scène, c'est va son chemin aussi. Mais le texte, il y a une différence. Il n'est pas neutre. Mais il ne prend pas parti au sens qu'il ne donne. Il ne dit pas ce qu'il faut penser. Il n'est pas au public ce qu'il faut penser. Voilà. Ce n'est pas un théâtre qui dit voilà, les salauds, ils pensent, ils ont fait ça, ou les enfants sont des irresponsables, etc. Non. Il y a quelque chose qui renvoie du réel, que j'ai réécrit et ouvert dans un univers poétique et imaginaire après, puisqu'ils sont morts et genre. Ça met le public en rapport avec ce qu'il voit, mais aussi, du coup, ce qu'il est amené à penser de ce qu'il voit.
Alors pour compléter ce que dit Michel, moi, je dirais deux choses. La première, c'est qu'en tant que dramaturge, j'ai été tenté d'employer à plusieurs reprises l'expression « tragédie résistible », qui, d'une certaine façon, est un oxymore. Hein. Ça dit bien ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est tragique parce qu'il y a quelque chose qui semble totalement s'abattre sur ces enfants d'une manière inéluctable. Et en même temps, le processus d'expression l'écriture est telle que, et c'est ce qui est extraordinairement impressionnant à le lire et à voir le spectacle, enfin évidemment je suis jugé parti, mais c'est de voir à quel point c'est de voir comment se tricote l'enchaînement des événements et comment précisément à certains maillons de cet enchaînement d'événements les choses auraient pu dans certaines circonstances se passer autrement. Tragédie irrésistible. Hein, cette histoire, on va voir, on va lire le texte, on va voir le spectacle, on connaît la fin de l'histoire. Hein, on regarde le spectacle, on lit le texte, comme le dit Michel dans le texte, depuis la fin de l'histoire. C'est pas comme si on suivait des péripéties en se demandant mais qu'est-ce qui va se passer après. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques de la tragédie, hein. C'est-à-dire qu'on connaît la fin de l'histoire. Bon, mais justement, ce qui nous est montré en même temps, c'est pas du tout que cette histoire est bouclée, si je puis dire, et que c'est atroce et qu'on n'a plus qu'à prendre son bouchoir. Mais c'est que les choses se retricotent devant nos yeux.
D'autant plus que ce n'est pas que la mort de Zied et Bouna. Et la question de survivance et de culpabilité, mais c'est les révoltes.
Oui,
c'est-à-dire 2005, c'est en même temps ce qui a déclenché des révoltes. J'emploie le mot révolte exprès parce qu'on parle souvent émeute, j'en parle dans le texte d'ailleurs du vocabulaire, dans toute l'Europe, il faut s'en souvenir. Ça a gagné 20 pays d'Europe. On parlait aux États-Unis d'une France à feu et à sang.
C'est vrai.
Eh oui, les étrangers n'osaient plus venir, alors qu'en fait, bon, mais c'est vrai que ça a déclenché un événement où les jeunes des banlieues qui se sentaient invisibles se sont rendus visibles en foutant le feu aux bagnoles. Enfin, c'était la visibilité. Et ce dont je parle maintenant, on le retrouve encore. C'est-à-dire, ça s'est répété.
C'est toujours d'actualité.
C'est toujours d'actualité et c'est toujours ce qu'on peut ou craindre ou espérer. C'est-à-dire, selon les points de vue où on se place, c'est-à-dire que ces invisibles, comment vont-ils se rendre visibles de nos jours aussi? Les Gilets jaunes posent cette question aussi de la visibilité de l'invisible. Et la question sur la violence, qui est insupportable pour certains ou souhaitée par d'autres, je ne dis pas ça pour être neutre, je dis ça pour dire que c'est une vraie question. Quels sont les outils pour se rendre visible? Et cette question de 2005 a mis le feu aux poudres de cette question, mais littéralement.
Bon, malheureusement, le temps tourne, il reste une quinzaine de secondes, donc ça va très vite. Ça.
Alors, juste pour dire que la musique est très importante dans ce spectacle.
Eh bien, on va donner quand même l'occasion aux auditrices, auditeurs d'avoir l'eau à la bouche, justement, pour ce spectacle. Donc, la musique est très importante. Et apparemment, c'est quasiment complet. Donc, il reste une vingtaine de places, 6 places, même pas, 6 places exactement, ou presque. Mais vous pouvez quand même toujours réserver donc pour ce spectacle à culture@univ-artois.fr. Ça se passe demain, Delta Charlie Delta, donc à La Ruche, à 19h30, à l'Université d'Artois. Merci beaucoup Michel Simoneau et Pierre Longnes d'être passés dans les studios
pour présenter
ce spectacle. Et puis, on vous souhaite une bonne représentation demain et plein d'autres encore. Voilà, on va se quitter avec un petit peu de poésie. Et Lady Like Lily, qui est une jeune bretonne.
Je vais dire juste une chose. Ceux qui sont frustrés du spectacle peuvent toujours écouter le podcast d'une grande partie du texte monté à France Culture.
Ah bah voilà, comme ça, bon bah, on rappellera ça demain dans notre magazine d'info. On se quitte avec Lady Like Lily, et un titre qui s'appelle Ilia. C'est un album de 30 titres qu'elle a fait pour les enfants, c'est le premier. L'album s'appelle Echoes, et puis merci à vous et à bientôt.